Bonjour à chacun. Pour ceux qui nous rejoignent, nous commençons à peine une nouvelle série par laquelle nous allons parcourir l'évangile selon Luc. Et la semaine dernière, Jean-Jacques a commencé en nous exposant les quatre premiers versets dans lesquels Luc explique son but. Son but, c'est d'exposer de manière méticuleuse les recherches qu'il a fait avec soin sur tous les événements qui se sont accomplis depuis le début. Et ce matin, ensemble, on va entamer le récit. On va rentrer dans l'histoire. Et on va voir que l'histoire commence avec deux annonces. Deux annonces d'une bonne nouvelle. Je vous invite à prendre dans vos Bibles l'évangile selon Luc, au chapitre 1, je vais lire les versets 5 à 56. Ceux qui ont la même Bible que moi, c'est la page 659. Luc 1, 5 à 56. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort. D'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrais-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que cela lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous particulièrement deux points qui vont suivre l'ordre du texte. Premièrement, comment les enfants sont annoncés? Est-ce que cela nous apprend sur Dieu? Et c'est là où on va passer un peu plus de temps. Et deuxièmement, comment les mères réagissent? Et est-ce que ça nous apprend sur la foi? Et on voit, dès le début de l'évangile, que Luc peint un tableau avec deux volets et qui présente en parallèle Jean-Baptiste et Jésus. Il annonce en parallèle l'annonce de leur naissance et un peu plus loin dans les textes qui vont venir, le récit de leur naissance. Et le parallèle que Luc déploie dès le début de son évangile qu'on vient de lire, en fait, il marque un chevauchement de deux périodes dans l'histoire du salut. Jean et Jésus représentent deux périodes du salut, l'ère de la promesse avec Jean et l'ère de l'accomplissement avec Jésus. Et en commençant son récit avec ce chevauchement des deux périodes du salut, Luc nous montre et montre à ses premiers lecteurs que le christianisme s'ancre dans le judaïsme. Et d'ailleurs, le récit qu'on a lu ce matin s'ouvre dans le temple, avec Zacharie qui sert dans le temple. Et si on va tout à la fin de l'évangile de Luc, on voit que le récit s'achève aussi dans le temple. Et on voit qu'au début de l'évangile, un enfant est promis. Et on voit qu'à la fin de l'évangile, les disciples retournent dans le temple pour louer Jésus ressuscité. Et Luc, en faisant ça, il souligne deux choses. Premièrement, il souligne une certaine continuité. Il souligne que Jésus est le prolongement de l'Ancien Testament. Des promesses faites à leurs ancêtres. Mais il souligne aussi une discontinuité radicale. Avec Jésus s'ouvre une ère nouvelle. Discontinuité et continuité. Le récit s'ouvre avec la présentation d'un couple, Zacharie, Élisabeth. On présente Zacharie comme un sacrificateur, Élisabeth comme la fille d'Aaron, une descendante d'Aaron. Et Luc insiste vraiment, ils respectent la loi de Dieu. Ils suivent les commandements d'une manière irréprochable. En fait, Zacharie et Élisabeth sont présentés comme un modèle pieux, le modèle du couple pieux. C'est un peu, si on pensait aujourd'hui, c'est un peu ce couple serviable qui vient à l'église avec joie, qui mène une vie droite, qui sont engagés avec le Seigneur et qui vivent selon sa parole. Le modèle d'un couple pieux. Mais ils n'ont pas d'enfants. Et Luc nous donne deux raisons. Parce qu'Élisabeth est stérile et parce qu'ils sont tous les deux âgés. Et c'est dans ce décor qu'apparaît un ange. Un ange apparaît à Zacharie après 400 ans de silence. 400 ans de silence. Entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, là où on se trouve, 400 ans de silence. Après 400 ans de silence, Dieu parle. Et comme après les 400 ans de silence, alors que le peuple est en Égypte et que Dieu intervient et parle, annonce la libération. Ici, l'ange annonce une nouvelle ère qui s'ouvre. Dieu intervient dans la vie de son peuple. Une nouvelle période dans l'ère du salut. Dieu intervient, Dieu parle et il annonce que la prière de Zacharie a été exaucée. Je me suis mis un peu à la place de Zacharie. Et je me suis rappelé la manière dont la naissance de mon fils m'a été annoncée. C'était un peu moins spectaculaire. Mais c'était tout aussi émouvant. Je ne vais pas vous raconter ici. On imagine sa surprise. Il y a un ange qui apparaît. Déjà, ce n'est pas tous les jours qu'un ange apparaît. Un ange apparaît et lui annonce une bonne nouvelle. Un fils lui sera donné. Sa prière a été exaucée. Mais l'ange va plus loin. Son fils aura une mission particulière. Et c'est ça la vraie bonne nouvelle. L'ange dit, il sera un sujet de joie pour vous, bien évidemment, mais pour beaucoup au-delà de vous. Et regardez la manière dont l'ange décrit la mission de Jean, verset 15. Il sera particulièrement consacré à Dieu. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. C'était la marque de ceux qui étaient consacrés à Dieu. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il marchera avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Jean-Jacques en avait parlé la semaine dernière. Jean, ici c'est Jean le Baptiste. Ce n'est pas le Jean de l'Évangile de Jean. Jean-Baptiste accomplit cette prophétie de Malachie. Malachie, le dernier prophète que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans la dernière partie de son livre, il annonçait « Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie. » Ça, c'est Dieu qui parle dans la bouche de Malachie. « Moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. » Avant le jour de l'Éternel, c'est le jugement de Dieu. C'est le jour où Dieu vient délivrer son peuple en jugeant ses ennemis. Avant ce jour de jugement dernier, Dieu enverra un messager. Un messager qui préparera son peuple pour le salut que Dieu envoie. Et on voit la manière dont l'ange décrit la mission de Jean-Baptiste comme celle d'un prophète d'envergure. C'est le messager promis par Malachie, celui qui doit annoncer le salut qui vient, celui qui doit préparer le peuple à la venue du Messie. Et en fait, peut-être que dans la tête de Zacharie, tout est en train un peu de se chambouler. Peut-être qu'il n'écoute pas très bien la fin, parce que dès qu'on lui dit qu'il a un fils, après il n'écoute plus. Mais comme c'est un sacrificateur, il devait être sérieux, alors il devait écouter, j'espère. Et peut-être qu'il se rappelait justement de ses prophéties, c'est un sacrificateur versé dans les Écritures, versé dans l'Ancien Testament, et il se rappelle de ses promesses qui ont été faites. Et il se rappelle que la venue de ce messager promis par Malachie, ça veut dire la venue du salut. Mais en plus d'être surpris, Zacharie a un doute. Et parce que Zacharie doute, Dieu le corrige. Il deviendra muet jusqu'à ce que s'accomplisse la bonne nouvelle qui vient de lui être annoncée. Il demandait un signe, il a eu un signe. À mon avis, il ne pensait pas à ça quand il demandait un signe. Mais parce qu'il a douté de la parole de Dieu, Dieu ne lui permet pas de prononcer aucune parole. Et parce que ce que l'ange a dit s'accomplit, Zacharie devient muet, alors Zacharie peut croire que ce qu'il y a promis va aussi s'accomplir. Un fils lui sera né. Et avec cette première annonce, on assiste à ce que mon professeur de Nouveau Testament à l'IBG appelait le premier renversement de l'évangile de Luc. Ça, c'est un mot qui va revenir souvent dans nos prédications. On va montrer la manière dont Luc décrit Jésus comme celui qui vient renverser les habitudes, renverser ce qui était normal pour l'époque. Le peuple attendait un roi, Jésus va naître dans une crèche. Les femmes et les enfants étaient généralement délaissés, Jésus va particulièrement s'intéresser à eux. Les malades et les pauvres étaient maltraités, Jésus va prendre du temps avec eux et va les considérer. Un renversement. Et ici, on voit que Dieu renverse la situation d'Élisabeth. Elle était stérile et maintenant, elle est enceinte. Et 6 mois après le début de la grossesse d'Élisabeth, Gabriel, le même ange, est envoyé à Nazareth, une ville de Galilée. Et cette fois, c'est à la future mère que Gabriel annonce la naissance. Marie, une vierge, fiancée à Joseph, c'est elle qui reçoit l'annonce de la part de l'ange. Peut-être à la lecture, vous l'avez remarqué, ça saute aux yeux quand on prend un peu de temps avec le texte, mais on a vraiment un parallèle dans la manière dont les récits sont construits. D'abord, une apparition de l'ange et la personne est troublée, l'ange qui rassure soit sans crainte, le développement de l'annonce de l'enfant à naître, l'interrogation de la personne à qui ça est annoncé, mais comment est-ce possible? Et enfin, l'explication et un signe qui est donné. Les récits sont construits de la même manière. Mais ce qui est remarquable dans ce texte, ce n'est pas la structure qui est pareille, c'est les différences. Et Luc, il établit un contraste fort entre l'annonce à Zacharie et l'annonce à Marie. Zacharie est sacrificateur, il sert dans le temple. C'est l'endroit le plus prestigieux de la vie du peuple. C'est comme si il apparaissait au palais de l'Élysée. Sauf que là, c'était encore plus prestigieux. Et là, c'est comme s'il apparaissait à Marie. J'allais prendre un nom de patelin d'ici, mais... Je vais prendre un patelin de là où je viens, comme ça personne ne se sent visé. C'est comme si l'ange apparaissait à Marie à Camblan et Ménac. Très joli, ceci dit, en bord de Garonne. Marie est une inconnue qui vit dans une ville qui n'est pas importante. Zacharie est vieux, sa femme stérile, mais Marie, elle n'a même pas connu d'homme. Zacharie doute, mais Marie croit à la parole qui lui a été annoncée. Le plus gros contraste, c'est même pas la différence dans l'annonce elle-même, c'est la différence dans le fils qui est annoncé. Le plus gros contraste, c'est entre Jean-Baptiste et Jésus. L'ange, quand nous lisons le texte, l'ange annonce un roi. Un roi qui a été promis à David il y a plus de 1000 ans, avant l'intervention de l'ange. Lorsque David voulait construire une maison pour Dieu, David voulait lui construire un temple. Dieu était intervenu par l'intermédiaire de son prophète et avait dit non, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais te construire une maison. Entendez par là, c'est moi qui vais te donner une descendance. C'est moi qui vais te donner une dynastie, une descendance royale. Et Dieu annonce à David, vous retrouvez cela en 2 Samuel 7, ce sera lui, ce fils premier à David, ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Quand on lit la suite du récit, on voit que Salomon, le fils de David, est bien celui qui construit un temple à l'Éternel. C'est bien le fils de David qui construit une maison en l'honneur de Dieu. Mais on voit une grande différence entre la vie de Salomon et ce qui a été annoncé à David, ce qui a été promis à David. Le règne de Salomon s'est éteint avec lui. Et même pire que cela, la fin du règne de Salomon n'est pas décrite en de très glorieux termes. Après Salomon, le royaume s'est divisé. On est loin du règne éternel qui a été promis par Dieu à David. Et on voit aussi que Salomon a été un exemple, un modèle de sagesse. Mais qu'à la fin de sa vie, cette sagesse a été ternie par ses choix. Et que malgré toute sa sagesse, ce n'est pas lui qui a été appelé fils de Dieu. Ce n'est pas lui qui pouvait appeler Dieu mon père. On voit que le peuple attendait donc un autre roi. Le peuple attendait le Messie, celui qui allait régner pour toujours, celui dont le règne n'aurait pas de fin, celui qui exercerait le règne de Dieu pour toujours. Et c'est ce roi qu'annonce l'ange à Marie. C'est ce roi promis, ce fils qui doit naître, regardez au verset 32. Ce fils qui doit naître, dit l'ange, Dieu lui donnera le trône de David. Verset 33, il règnera éternellement et son règne n'aura pas de fin. En fait, quand on parle de Jésus, on parle de ce roi qui avait été promis à David. On parle du roi qui vient établir le règne de Dieu sur terre. C'est ça que l'ange est en train de dire à Marie. Ce roi que vous attendez depuis des années, depuis des siècles, c'est ce roi qui va naître par toi. Et on voit une certaine ironie. Le premier verset que l'on a lu, le verset 5, dit « Durant le règne d'Hérode sur la Judée, où Hérode était roi en Judée. » Lui couvre le récit avec la mention d'Hérode qui est roi de Judée et il introduit la mention de Jésus, roi de l'univers. Et on voit que Jean-Baptiste est annoncé comme un prophète, mais Jésus est annoncé comme un roi, comme le Messie. Jean-Baptiste, un peu plus tard, est appelé prophète du Très-Haut. Dans notre texte, Jésus est appelé fils du Très-Haut, fils de Dieu. Jésus est plus qu'un roi. Quand on regarde sa naissance ne ressemble à aucune autre. Il naît d'une vierge. Certains disent, mais je peux pas y croire parce que c'est pas possible. Bonne définition du miracle. Bonne définition de la foi. Dieu intervient de manière miraculeuse. Il vient couvrir de son ombre Jésus. Marie, pardon. Il vient faire naître Jésus par son esprit. La conception de Jésus, nous dit le texte, est l'œuvre de Dieu. Il naît d'une femme, il est pleinement homme. Il naît de l'Esprit, il est pleinement Dieu. Regardez au verset 35. L'ange lui dit, le saint enfant. Il est saint comme Dieu. Mais en fait, l'ange va plus loin. Il est saint parce qu'il est Dieu. Regardez ce que dit Élisabeth au verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Et un peu plus tard, elle dit, deux versets plus loin, au verset 45, elle dit « Heureux celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. » Elle parle d'une annonce de la part du Seigneur, de la part de Dieu lui-même, et elle décrit l'enfant à naître comme le Seigneur, Dieu lui-même. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, reconnaît que Jésus est Dieu. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu fait homme. Le plus grand et le plus beau mystère de l'histoire de l'humanité. C'est ça que l'ange est en train d'annoncer à Marie. Quand on regarde attentivement le texte, on se rend compte que le personnage principal du récit, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu, le personnage central du récit. On pourrait dire que ce passage, il est saturé de Dieu. Dieu est mentionné 11 fois, Seigneur mentionné 13 fois. Luc commence son évangile avec Dieu partout. J'aimerais souligner 3 aspects en particulier dans ce texte. D'abord, Dieu est un Dieu de providence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute chose concourt à ce qu'il a décidé. Tout ce qui arrive, arrive comme il l'a décidé, pour atteindre les buts qu'il a fixés. Rien de ce qui se passe dans le monde, et rien de ce qui se passe dans l'histoire n'est dû au hasard. Dieu dirige toute chose, et Dieu dirige toute chose dans un seul but, se glorifier par le salut de son peuple. Et c'est ça la direction de toute l'histoire. Et c'est ça que la Bible, en fait, nous révèle. Elle nous révèle que toute l'histoire, depuis le début de l'humanité, ne cherche qu'un seul but, que Dieu se glorifie par le salut de son peuple. Que tout concourt à cela. Après 400 ans, Dieu parle. Après 400 ans, Dieu agit. Il envoie son Fils naître sur terre. C'est ça qu'on va fêter à Noël. Ça, c'est un peu la bande-annonce ce matin. La bande-annonce d'un film qu'on regardera ensemble pour la célébration de Noël dont vous avez les flyers sur vos chaises. Comme une bande-annonce, il y a des choses voilà, qui sont déjà dévoilées. Vous connaissez la fin de l'histoire de ce film-là, à Noël ? Jésus, en fait, c'est le Fils de Dieu. Ah, pour ceux qui ne savaient pas, c'est le centre de l'histoire. Mais l'histoire, elle est bien plus que cela. Quand on a lu cette bande-annonce-là, on n'a pas lu toute l'histoire. Venez, venez pour la célébration de Noël, entendre toute l'histoire de la naissance de Jésus. Remarquez la manière dont toutes ces choses se sont accomplies en leur temps, verset 20. Au temps où Dieu l'avait décidé, verset 25. Au temps où Dieu l'avait décidé, Dieu envoie son Fils sur terre. Son Fils s'appelle Jésus. Jésus qui veut dire « Dieu sauve ». C'est ça le plus grand renversement de l'histoire. Dieu se fait homme pour sauver le peuple de ses péchés. Cela arrive en son temps. Tout ce que Dieu prévoit arrive quand il l'a décidé. Je me suis demandé, mais pourquoi Zacharie doute ? Le texte est clair sur le fait qu'il doute. Pourquoi il doute ? Comment on peut douter quand on voit un ange ? La plupart des gens avec qui je parle me disent assez facilement, mais si je voyais un ange, je croirais de suite. Et la preuve que non, en fait. La preuve que non. Pourtant, Zacharie savait en plus ce qui avait été annoncé. Et Zacharie peut faire le lien entre les promesses qu'il entend depuis qu'il est petit, parce qu'il est élevé comme un sacrificateur, il connaît la loi par cœur, il connaît les prophéties par cœur, il peut faire les liens entre ce qu'il a entendu depuis qu'il est tout petit et ce que lui annonce l'ange, et pourtant il doute. Que pensait le peuple après 400 ans de silence? De quelle manière le peuple était-il accroché aux promesses? Peut-être que le peuple pensait la même chose que ceux qui, aujourd'hui, pensent que Dieu est silencieux et lointain. Peut-être c'est votre cas, peut-être que vous êtes sceptique et que vous dites, mais Dieu ne parle plus. Dieu est silencieux aujourd'hui. Je vous lance un défi, restez avec nous pour la série sur Luc. Et vous verrez la manière dont Dieu continue de parler. Dont Dieu n'est pas un Dieu ni silencieux, ni lointain. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Ça fait 400 ans que Dieu, on ne l'entend plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est plus là. Dieu n'oublie pas ses promesses. Un auteur dit que les promesses sont comme des obligations signées par la main de Dieu. Et juste après, il ajoute, n'est-il pas bon de vivre en sécurité? Ce même auteur dit que les promesses sont comme les flotteurs du filet qui l'empêchent de couler dans les eaux du désespoir. N'est-il pas bon de vivre en sécurité? Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses. C'est quelque chose que Luc veut souligner avec une force extraordinaire avec ce récit. Ses promesses sont sûres et Dieu les accomplit toutes en son temps. Marie le souligne dans le Magnificat. Qu'est-ce que c'est? C'est juste le nom qui a été donné, je vous le donne parce que peut-être que vous l'entendrez ailleurs. C'est le nom qui a été donné à ce psaume qu'elle compose à la fin du récit, au verset 46 à 55. Il vient du mot « mon âme célèbre, mon âme magnifie ». C'est pour ça qu'on l'appelle le Magnificat. Marie souligne que Dieu tient ses promesses. Il dit que Dieu intervient par la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham. Quand on lit ça, on se dit, mais s'est souvenu, il avait oublié? Mais c'est pas comme nous, où on est en train de faire à manger, on se dit, ah, j'ai oublié de sortir les poubelles. On parle pas de ça. C'est juste une manière d'exprimer le fait que Dieu a décidé d'agir maintenant par rapport à ce qu'il avait annoncé avant. Quand on dit Dieu se souvient, on est en train de dire cela, que Dieu agit maintenant par rapport à ce qu'il avait décidé avant. Et on voit Luc qui nous montre par la bouche de l'ange et par la bouche de Marie que Jésus est à la fois l'accomplissement des prophètes faites, des promesses faites à David et des promesses faites à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénis en toi, bénis par ta descendance. Et c'est en Jésus qu'elles sont bénies. Dieu apparaît aussi comme un Dieu de grâce. Dans les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est un gros mot pour dire qu'on y lit à peu près les mêmes choses, c'est Matthieu, Marc et Luc, il n'y a que Luc qui emploie le mot de grâce. Cherchez-le dans un autre évangile, vous ne le trouverez pas. Il n'y a que Luc qui emploie le mot de grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu qui intervient pour faire du bien à ceux qui ne le méritent pas. Dieu qui intervient pour faire du bien à ceux qui ne le méritent pas. Et Marie, nous dit-on, a trouvé grâce auprès de Dieu, verset 30. Pourquoi? Parce qu'elle était meilleure que les autres? Je ne pense pas. D'ailleurs, il y a un fait étonnant quand on compare les deux récits, c'est justement en fait le silence de Luc par rapport à la personnalité ou à la piété de Marie. De Zacharie, on nous dit qu'il était pieux, on nous présente ce couple, Zacharie et Élisabeth, comme un couple pieux qui observe de manière méticuleuse la loi de Dieu. C'est un modèle de piété, c'est comme ça que Luc veut nous les présenter. Mais de Marie, il n'est rien dit, sinon qu'elle est fiancée à Joseph et qu'elle est vierge. Aucune allusion à sa piété. Aucune allusion à quelque mérite que ce soit. tout ce que le texte souligne, c'est qu'une grâce lui a été faite. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. La grâce de Dieu ne se mérite pas. La grâce de Dieu se reçoit avec reconnaissance et humilité. Et Luc nous montre à la fois un Dieu tout-puissant, il nous montre un Dieu qui gouverne sur les événements, qui gouverne sur l'histoire, qui agit de manière miraculeuse, un Dieu qui nous dépasse totalement, qui pourrait nous donner l'impression d'un Dieu lointain ou d'un Dieu détaché. Mais Dieu est proche. Dans son récit, Luc nous montre la manière dont son regard se porte sur ceux qui ne sont pas estimés. Luc nous montre la manière dont Dieu entend les prières de ceux qui le prient avec foi. Il a entendu la prière d'Élisabeth et de Zacharie. Dieu entend nos prières. Dieu n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu personnel qui nous connaît personnellement. Regardez ce que dit Élisabeth au verset 25. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Jean-Baptiste est à la fois la réponse aux promesses que Malachie a prophétisées, mais il est aussi la réponse aux prières de ses parents. Regardez la manière dont Marie reconnaît la même chose au verset 49. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Dieu intervient dans l'histoire et dans notre histoire. Dieu intervient dans notre histoire, sa puissance et sa grâce s'accomplissent dans nos vies, pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est bon. Enfin, Dieu intervient dans la vie de son peuple pour accomplir le salut qu'il avait promis. On l'a dit, c'est la mission de Jean-Baptiste. La mission de Jean-Baptiste, c'était de préparer le peuple pour la venue du Messie. D'annoncer celui qui vient au nom de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Celui que Dieu a envoyé pour régner éternellement. Celui que Dieu a envoyé pour délivrer son peuple. Celui que Dieu a envoyé pour établir son règne de justice et de paix. Tout ce à quoi le peuple aspirait depuis des siècles. Mais aussi tout ce à quoi nous aspirons au fond de nous. La justice, la paix et l'amour sont accomplis en Jésus. Marie appelle Dieu mon sauveur. Et Luc, il est en train de germer une petite graine qui va croître pendant tout son évangile, que Jésus est ce sauveur qui vient chercher et sauver ce qui était perdu. Et Luc, en germe, nous montre quelle est la plus grande promesse, la meilleure des nouvelles qui soit. J'aimerais plus rapidement passer maintenant un peu de temps sur ces deux mères et la manière dont elles reçoivent cette annonce. La manière dont elles témoignent de la foi. Dans le premier tableau, on a vu que Luc met l'annonce de Jésus, l'annonce de Jean-Baptiste en parallèle, en soulignant le rôle de Jésus et la personne de Jésus. Et ici, il y a un deuxième parallèle avec Élisabeth. Et Marie, il va souligner Marie. Et il va faire d'elle un modèle de foi. Et après avoir parlé de la source de notre foi, de cet accomplissement des promesses, Luc, il veut souligner la manifestation de la foi. À quoi ressemble la foi qui reçoit la grâce de Dieu? J'aimerais voir avec vous que c'est un mélange de confiance, d'humilité et de joie. Jean-Jacques l'a dit la semaine dernière, le but de Luc, et c'est lui qui le dit comme cela, c'est que Théophile, la personne à qui il écrit, reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Ça, c'est le but de Luc. Tout ce qu'il écrit dans son évangile vise ce but-là. Que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. Et donc, Luc va vers ses témoins et récolte des témoignages fiables. On avait conclu la dernière fois que notre foi s'appuie donc sur la certitude des événements. Notre foi ne s'appuie pas sur des choses qu'on espère être vraies ou sur des choses qu'on voudrait être vraies. Mais notre foi s'enracine dans ce qui s'est passé. S'enracine avec certitude dans ce que Dieu a accompli. On pourrait se demander, mais au fond, pourquoi encore, après 2000 ans, la rédaction de cet évangile, on continue de prêcher cet évangile? Tout simplement parce que une partie de notre assurance repose sur ce que Dieu a fait pour que nous puissions croire ce qu'il va faire. Savoir que Dieu a accompli ses promesses dans le passé nous aide à lui faire confiance pour ses promesses dans le futur. Élisabeth, elle souligne cette confiance de Marie, elle dit « Heureuse celle qui a cru dans l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. » Et Marie elle-même souligne cette confiance qu'elle a quand elle dit à l'ange « Qu'il me soit fait ce que tu as annoncé. » Marie, elle a confiance que ce que Dieu fera est dans la lignée de ce qu'il a déjà fait par le passé. Et encore une fois, la fidélité de Dieu dans le passé nous aide à lui faire confiance pour le futur. Et Marie souligne les hauts faits de Dieu. Et dans la Bible, dans toute la Bible, page après page, on lit la manière dont Dieu a agi dans la vie de son peuple. Qui c'est qui fait partie de cette assemblée depuis plus de 20 ans? Levez bien la main. Depuis plus de 20 ans. Ceux qui en font partie depuis moins de 5 ans, gardez la main levée. Regardez ceux qui ont la main levée. Ceux qui font partie de l'assemblée depuis moins de 5 ans, regardez ceux qui font partie depuis plus de 20 ans. Alors, il faut que l'énoncé soit clair. C'est pour ça que je ne suis pas prof. Allez voir les frères et sœurs qui sont là depuis longtemps. Demandez-leur un exemple de la fidélité de Dieu. On lit dans la Bible ce que Dieu a fait dans l'histoire de son peuple, mais on entend de la bouche de nos frères et sœurs ce matin ce que Dieu a fait dans l'histoire de son peuple à Étup. Dieu a été fidèle, Dieu continue d'être fidèle. Écoutez le témoignage de nos frères et sœurs. S'il vous plaît, partagez, nos frères et sœurs qui sont là depuis longtemps, partagez la manière dont Dieu a été fidèle dans l'assemblée. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres par la fidélité de Dieu. Comment s'est manifestée cette fidélité de manière concrète? Comment elle s'est manifestée cette fidélité dans l'histoire de l'Église, mais dans votre histoire? On a besoin de se rappeler la fidélité de Dieu. On a besoin de s'encourager les uns les autres et de s'enraciner dans ce que Dieu a fait pour lui faire confiance pour l'avenir. Nous avons des projets. Et on ne pourra pas avancer avec confiance si on ne s'appuie pas sur ce que Dieu a déjà fait par le passé. Parlez à la fin du culte. Utilisez les moments de communion fraternelle, utilisez les moments de repas en commun pour demander « T'es là depuis combien de temps ?» Donne-moi un exemple de la manière dont Dieu a été fidèle dans ta vie. Donne-moi un exemple de la manière dont Dieu a été fidèle dans la vie de l'Assemblée. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Et que la gloire revienne à Dieu. Deuxième point que nous montrent Marie et Élisabeth, l'humilité. Parfois, on peut confondre la confiance avec l'arrogance. Quelqu'un de trop confiant peut paraître arrogant. Souvent à juste titre, parfois non. Et la Bible nous rappelle que Dieu a en horreur les orgueilleux. Que l'arrogance vient de la confiance en soi. mais que la confiance en Dieu pousse à l'humilité. Après l'annonce qui a été faite à Élisabeth, Élisabeth, elle aurait pu prendre un peu la grosse tête. Elle aurait pu se dire, purée, t'as vu ce que Dieu me fait ? J'étais stérile, maintenant j'ai un enfant. En plus, c'est pas n'importe quel enfant. Hein. L'ange m'a dit que ça allait être le messager promis par Malachie. T'imagines ? Sûrement que Dieu, il a vu comment j'étais pieuse. Sûrement qu'il m'a récompensé parce que je suis une personne extraordinaire. Elle le dira pas comme ça. Elle le saupoudra de paroles plus chrétiennes. Mais peut-être que son cœur aurait pu commencer à échafauder une pensée comme cela. Après tout, en dehors de son mérite, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y arrive un si grand miracle ? La grâce de Dieu. Quand on oublie que tout ce qui nous arrive par grâce, alors l'arrogance nous pointe du doigt et nous guette et nous attend au tournant. Mais ce n'est pas ce qu'Élisabeth fait. Élisabeth nous est aussi décrite comme un modèle d'humilité. Regardez au verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? La grâce de Dieu la pousse à l'humilité. Et l'humilité la pousse à reconnaître la grâce de Dieu. Regarde également la manière dont Marie est un modèle d'humilité. Verset 48. Dieu a porté le regard sur son humble servante. Est-ce que Marie est en train de se dénigrer ? Est-ce que Marie est en train de se dire « Ah, je suis nulle, une pauvre servante ?» Non, elle est juste en train de reconnaître son humilité. Elle est juste en train de reconnaître sa juste place devant Dieu. Et l'humilité, ce n'est pas le contraire de la confiance. C'est le contraire de l'orgueil. Et Marie nous montre dans son psaume la manière dont Dieu prend plaisir à élever ceux qui s'humilient devant lui. Comment il prend plaisir à donner de l'importance à ceux qui se sentent désestimés, à ceux qui ne se croient pas importants. Le monde nous dit « tu ne vaux rien, tu n'as pas une belle carrière, tu n'as pas une belle famille, il n'y a pas une grande maison, tu as 52 ans, tu n'as même pas de Rolex, tu as raté ta vie. » Peut-être que nous aussi on se dit ça, peut-être que personne ne nous le dit mais on se le dit. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et on se compare aux autres. Quand je vois tout ce qu'il a fait, qui suis-je ? Mais Dieu, dans sa grâce, s'approche de ceux qui s'humilient. Dieu, dans sa grâce, s'approche de ceux qui ne se sentent pas importants. Dans la suite du Magnificat, Marie le souligne avec d'autres renversements. Regardez, verset 51. Il fait miséricorde à ceux qui le craignent. Il disperse les orgueilleux. Verset 52. Il fait descendre les puissants. Il élève les humbles. Verset 53. Il rassasie les affamés. Il renvoie à vide les riches. Notre humilité exalte la grâce de Dieu. Dieu ne nous fait pas miséricorde parce que nous sommes meilleurs que les autres. Dieu nous fait grâce parce qu'il nous aime. C'est son amour qui explique sa grâce et rien d'autre. Pourquoi Dieu nous a fait grâce ? Parce qu'il nous a fait grâce. Pourquoi il nous a fait grâce ? Parce qu'il nous aime. Pourquoi il nous aime ? Parce qu'il nous aime. Rien en dehors de l'amour de Dieu peut expliquer la grâce qui nous est faite. Et ça, Marie le reconnaissait. Et nous voulons le reconnaître en Église encore aujourd'hui. Dernier élément d'une foi qui reconnaît la grâce de Dieu, c'est la joie. La joie traverse le texte. Et c'est normal quand on nous annonce un enfant à naître. Il n'y a aucun autre sentiment que la joie. Après, peut-être il y en a d'autres qui peuvent naître. Quand on pense aux couches, la fatigue. Mais la première chose qui vient, ce n'est pas ça, c'est la joie. Et ce texte est saturé de joie. L'ange annonce que Jean-Baptiste sera un sujet de joie, non seulement pour ses parents, mais encore pour beaucoup. Quand Marie arrive chez Élisabeth, Jean-Baptiste, qui est dans le ventre d'Élisabeth, bondit de joie. Avant sa naissance, Jésus est déjà un sujet de joie. Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent qui est Jésus. Ils reconnaissent que c'est la manifestation de la grâce de Dieu qui vient délivrer son peuple. Verset 46-47, Marie dit « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » La foi est source de joie. Plus nous prenons plaisir en Dieu, plus nous sommes remplis de joie. Plus Marie ruminait, repassait dans son esprit. Ça, c'est un autre terme qui est employé dans un autre évangile. Marie repassait dans son esprit ce qui lui avait été annoncé. Plus Marie méditait sur la grâce que Dieu lui avait annoncée, plus elle était remplie de joie. La joie est le fruit de ceux qui placent leur confiance en Dieu. Parce qu'ils savent la grâce qui leur a été accordée. Parce que comme pour Marie, Dieu s'est approché d'eux. Dieu s'est approché de Dieu. Et Marie, elle sait que cette grâce, elle a tout changé. Regardez verset 48, elle dit « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Ce mot « désormais », il n'est pas anodin. À chaque fois que Luc l'emploie dans le récit de son évangile, il marque un tournant. Il marque un tournant dans le récit. Une fois que Marie a été touchée par la grâce de Dieu, rien ne sera plus comme avant. Et quand l'ange va visiter les bergers au chapitre 2, on le verra bientôt, il leur annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. Quelle est cette bonne nouvelle que les anges annoncent ? Que Jésus, le Messie, le Sauveur, est né. Notre joie n'est pas liée aux circonstances. Notre joie est attachée à la grâce de Dieu. Cette joie ne disparaît pas. Et cette joie ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a fait. Parce que nous avons reçu la plus belle nouvelle qui soit, soyons dans la joie. Parce que nous avons reçu la plus belle nouvelle qui soit, soyons dans la joie. Et je vais prier. Merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu de promesses. Et tout ce que tu as promis s'accomplit. Et merci parce que tu nous le rappelles avec ce récit que Luc nous rapporte. Ce que tu avais promis s'est accompli. Ce que tu as promis s'accomplira. Donne-nous, Seigneur, la patience pour que ton temps devienne le nôtre. Pourquoi nous ne puissions pas te croire ni silencieux ni lointain. Donne-nous, Seigneur, la confiance pour croire en ta parole. Et aide-nous, Seigneur, à célébrer ta grâce. À célébrer ta grâce par une humilité qui reconnaît que tout nous vient de toi. Que tout n'est que le fruit de ton amour. Et aide-nous à célébrer ta grâce par une joie qui ne s'efface pas. Donne-nous, Seigneur, particulièrement en ce mois de décembre, une joie visible, durable, une joie qui se communique et une joie qui s'ancre dans la promesse de ta grâce. Dieu fait homme, venu sauver le peuple de ses péchés. Que tu sois glorifié, Seigneur. Amen.